La Seine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, c'est André Duny, c'est retour de vacances, c'est tout s'emballe, j'en aurais pleuré. J'en aurais pleuré tout l'été si je n'arrive pas à déconnecter des incendies géants. Là, tout le pourtour de la Méditerranée, l'Albanie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Var en flammes. J'en aurais pleuré, voilà. Je suis un peu ému, tout s'emballe. Alors qu'est-ce qu'on fait Plus ça brûle et plus ça fait de CO2, et plus il y a de CO2, plus ça brûle, puisque plus ça réchauffe, puisque la chaleur infrarouge ne veut pas quitter la Terre avec cette chape de CO2. Et puis CO2, il y est pour 1000 ans. Alors il y en a qui disent quelques centaines d'années, d'autres disent 1000 ans. Donc le coup est parti, donc ça va pas être marrant pour les générations qui viennent, mais pour la nôtre aussi, parce que j'en pleurerais, là je suis rentré... de Digne, les bains, après une intervention dite remarquée devant une manif de 800 personnes, mais bon, on en parlera dans le deuxième sujet, plutôt lié au Covid. Mais là, ça sera un sujet, si vous voulez bien, autour de qu'est-ce qu'on fait. Je pense que tout le monde se pose la question. Or, il se fait plein de choses. Et mon but, là, dans la radio, c'est d'élargir ces choses qui se font et de les faire connaître. Tout en maintenant un cap sur la méthodologie ou la méthode, toujours partir de l'histoire, toujours d'une façon critique, toujours partir de la structure générale ou du global pour en venir au local, toujours chercher la contradiction dans ce qui se passe. Bref, c'est ça peut-être le principe de l'esprit critique, ne pas s'en laisser compter, regarder toujours derrière ce qui se dit, les intérêts qui sont servis par ce qui se dit. Voilà, ça concerne aussi bien les médecins que, parce que mon médecin me raconte, on va, dans le canard, ça y était. Les laboratoires n'ont plus le droit de donner des avantages en nature. Avant, c'était les caisses de whisky, de champagne, pour prescrire tel ou tel. Mais ces grands laboratoires de Big Pharma, maintenant, ils payent des séminaires à 5-6 000 euros par personne. Ce sont des séminaires qui sont dans la formation continue des médecins. Donc, tout ça, c'est bien. Sauf que le séminaire pour la formation continue des médecins, les colloques, etc., se font en Tunisie, par exemple, dans un hôtel 5 étoiles, avec la pistoche. On peut écouter la conférence allongée sur son matelas pneu, ou dans la grande salle. On peut être dans la grande salle, ou ne pas y être, puisqu'il n'y a pas de passe. Voilà. Donc, moi, je me méfie un petit peu. Si on me dit, oh, oui, il faut ça, attends, quel intérêt tu as à me prescrire ça, vu que tu es allé en Tunisie pour 6 000 euros et que tu gagnes 8 000 pour médecin de médecine générale, 13 000 spécialistes, seulement 6 500 si tu es chirurgien dans un hôpital, on gagne deux fois moins que dans une clinique, mais les cliniques c'est 80% dans la main des Américains et des banques. Vous allez me dire, ça y est, il fait encore ses diversions. Non, j'en aurais pleuré de voir brûler partout. Mais ce que je dois dire, c'est que si tout s'emballe, par exemple l'Australie, 12 millions d'hectares brûlés. Nous, on a eu... dans le Var, je ne sais plus, 7-8 000 hectares brûlés. On n'a pas eu 1 million d'hectares brûlés. Mais chaque hectare, c'est 900 tonnes de CO2 en plus. Et j'en aurais pleuré. Mais en même temps, l'esprit critique me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en Australie? C'est le pays le plus américanisé ou le plus libéral ou le plus capitaliste du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des élevages industriels, ils ont raclé les sols, les élevages industriels, ils ont raclé jusqu'à la dernière goutte d'herbe, ils ont fait des forêts d'eucalyptus, parce qu'en 15 ans ça pousse, ça fait du pognon, pour faire de la pâte à papier ou du bois de construction, du bois d'œuvre ou même de chauffe. Et voilà, c'est les colons de l'or, les colons du bois, les forêts rasées pour exploiter les terres en blé, en mouton, et la meilleure terre initial qui avait protégé nos soi-disant débiles d'anciennes civilisations qu'on a toujours traitées comme des gros débiles, les aborigènes, eux, ils savaient faire des brûlis pour renouveler la nature et la féconder. Ils savaient ne prélever que ce qu'ils avaient besoin Et leur religion leur interdisait d'abîmer cette nature. Et finalement, ils arrivaient à vie, puisqu'ils savaient remettre des fractures, ils savaient trépaner, ils savaient... C'est incroyable! Sans instruments chirurgicaux, j'hallucine, mais c'est vrai. Voilà, donc... Voilà, on pique de l'eau dans le sous-sol, après c'est l'eau salée qui arrive, donc c'est plus impropre, il y a plein de fermes qui ferment, il y a plein de endroits où on n'a même plus d'eau dans les maisons. Et bien voilà, le réchauffement climatique met 2 degrés de plus sur l'Australie, il en met 1,5 degré ailleurs, 3-4 au Groenland, parce que ça c'est pas uniforme, hein, il y a des courants. Ça arrive sur un système, c'est l'histoire, ça arrive sur un système de 2 siècles de capitalisme outrancier, où il s'agit de faire du pognon avec le mouton, avec la terre, avec les batteries de bagnoles électriques, avec les bagnoles électriques. Il faut faire du pognon, et on traite la terre comme un des perles qu'on achète, qu'on vend, qu'on jette, qu'on détruit, qu'on pesticide, voilà. Donc 50 ans d'exploitation et les terres sont abandonnées, des villages entiers sont morts, et perdent la ville australienne et la proie des flammes en banlieue. Si vous voulez, le réchauffement climatique intervient toujours sur une histoire, une société. Si cette société a violenté la nature, ça brûle beaucoup plus. Voilà, je voudrais pas pleurer, les amis, pour la Chartreuse, parce que je suis allé me balader dans les bois, là, je vois que c'est... touffu, et on a planté un max. On a serré les pins parce que ça fait du pognon, et on croit que parce qu'on met des pins à 4 mètres les uns des autres, ça va faire beaucoup plus de pognon. Mais non, c'est trop serré, ça ne fait pas de pognon parce que ça crève, il y a concurrence entre les arbres, le sol évidemment est épuisé, mais le jour où ça va cramer, ça va bien cramer. Voilà, on veut toujours faire du pognon, et quand le réchauffement arrive, ou les grands incendies, ils incendient quoi ? S'il y avait une forêt de feuillus mélangée avec un petit peu de pin ou de sapin, ça ne brûlerait pas. C'est notre société capitaliste qui, en violentant la nature, rend possible les plus grandes catastrophes type incendie violent. Vous ne pensez pas que dans le Var, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on n'a que la monoculture du pin maritime ? Pourquoi il n'y aurait pas plus de feuillus ? Pourquoi on n'a pas des grandes allées de protection contre les incendies ? Quand on regarde l'état des forêts, ce n'est pas entretenu par les propriétaires. Tout le monde s'en fout. Les propriétaires s'en foutent pour une bonne part. Une forêt bien entretenue et avec assez d'humidité qu'elle génère ne prend pas feu. Prend feu parce qu'on a mis des essences. Donc ça, c'était le principe, si vous voulez, pour amorcer notre sujet. Hein. Alors, on fait quoi si tout s'emballe ? Sauf qui peut ? Alors, moi, je me sauve tout seul. Hein. Je pars dans les bois de Chartreuse, je me fais un coin grotte-cabane, j'ai une Kalachnikov, premier qui viendra me chatouiller pour prendre mes conserves, je lui balance une rafale. Voilà, avec ma bite et mon couteau, je saurai manger les bons champignons, les glands qui auront déjà gelé 2 fois, parce qu'un gland qui a gelé 2-3 fois, c'est aussi bon qu'une châtaigne. Je vais me mettre pas loin des châtaigniers pour avoir à manger quand même à moi. Enfin, c'est le survivalisme. Ça fait un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions, le sac à dos survivaliste, l'art de faire du feu survivaliste, le bunker survivaliste. On vend énormément aux États-Unis, les mecs sont dans leur bunker. Bon, ils vont retarder quoi ? C'est comme pour la guerre atomique. Hein. Ils avaient un bunker avec du saucisson, mais les radiations, à un moment donné, elles sont là. Et le saucisson, à un moment, il n'y en a plus. Et donc, il faut sortir, mettre le nez dehors, et on meurt comme les autres, seulement avec une semaine de retard. Et les plus riches, regardez... Ils s'envoient en l'air avec leur fusée Blue Origin, le Bezos et l'Amazon. Mais, fiche-toi, ils pensent que sur Mars, ils vont refaire une atmosphère en ensemençant de lichen. Non mais, c'est incroyable, il faut des milliards d'années pour faire une atmosphère. La Terre, l'atmosphère de la Terre, c'est faite en plusieurs milliards d'années. C'est l'oxygène. Des végétaux qui a progressivement fait 20% d'oxygène dans ces milliards et milliards de teratonnes de gaz qui forment ce gaz respirable qui a permis la vie. Mais l'oxygène, il n'est pas venu. Il est intervenu comment ? L'oxygène, ça a été produit par les végétaux, et d'abord par les animalcules, par le plancton, par les lichens, etc. Donc, vous voyez, on s'envoie en l'air, on va sur Mars. Les milliardaires, ils vont pas sur Mars. Et ils iront pas, et ils sont pas fous. Non, c'est un rêve qu'ils nous font partager comme une religion, il faut croire. Non, eux, ils achètent des fermes à des dizaines de millions d'euros en Nouvelle-Zélande. C'est la ruée sur les fermes en Nouvelle-Zélande. C'est l'endroit où vous êtes le plus éloigné des terres immergées. Donc personne viendra vous trucider pour dire vous avez foutu la planète en l'air, les plus riches, là, avec tout ce pétrole et toutes ces bagnoles et tous ces puits, tous ces pipelines et tous ces tankers géants et tout ce tourisme de masse, tous ces dizaines de milliers d'avions. Vous avez voulu tirer du pognon de tous les côtés en vous servant du carburant le moins cher, alors qu'on savait très bien faire des tramways électriques, on savait très bien faire des voitures avec des bonbonnes de gaz comprimé juste pour les petits déplacements, ça allait presque aussi loin qu'une voiture électrique actuelle. Ah non, il a fallu absolument mettre tout le paquet sur le pétrole, parce que les milliardaires du pétrole, ils ont tout verrouillé. Eh bien voilà comment ça se passe. Eh bien les plus riches, ils vont s'acheter des fermes géantes avec 300 moutons. Donc ils sont sur... C'est un peu comme Abramovitch, dont j'ai parlé la dernière fois, mais il paraît qu'il ne faut pas trop parler des parce que des fois, il y a des accidents de voiture qu'on ne sait pas bien pourquoi il y a cet accident. Donc, on va se sauver comment ? On va aller, comme les bobos dont parle mon fils à Paris, ils achètent en Suède. Ouais, très bien la Suède, mais la Suède, on fait déjà du raisin, et du bon raisin en plus. Une ville en Suède, ça permettra à nos enfants d'avoir moins chaud, mais il faut avoir du pognon pour faire une ville en Suède. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça ou on se sauve en tant que peuple adulte, vacciné ou pas, puisqu'on a le droit de ne pas se vacciner, dans la mesure où on a le droit, j'en parlerai, de décider ce qu'on injecte dans son propre corps. On a le droit à réfléchir à qu'est-ce qu'on choisit dans bénéfice-risque, santé, pas santé, voilà. Donc, entre adultes, citoyens, vaccinés ou pas, qu'est-ce qu'on décide ici, en Chartreuse, pour prévenir les incendies géants qui menacent ? S'il y a un dôme de chaleur sur la Chartreuse de 10 jours... Je donne pas cher de notre belle forêt et de cet oxygène qu'on a ici et dont tout le monde est jaloux parce qu'elle est bonne, ça fait un air merveilleux. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer une vie vivable ? Chacun ça pour soi, son panneau solaire, son petit puits, sa petite pompe à de chaleur. Le capitalisme, il est pas fou. De toutes ces saloperies et les conséquences dramatiques, qu'est-ce qu'il fait ? Du pognon. Voilà, alors à moi ma pompe de chaleur, à moi ma cellule photovoltaïque, parce qu'on croit qu'avec des cellules photovoltaïques, on va survivre. Attends, quand les grands réseaux électriques s'effondreront, avec ton panneau photovoltaïque, et il en faut un gros paquet, tu pourras même pas faire tourner ta machine à laver, parce qu'il faut 3 kilowatts crête, et donc 3 kilowatts crête, il faut 25 mètres carrés de panneaux, c'est des panneaux photovoltaïques chinois, c'est irrecyclable, 20 ans après c'est naze, et tu te retrouves avec un truc qui va pas, bref. Vous voyez, la question se pose vraiment, écoutez les copains, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez la population. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a des expériences en France qui peuvent nous le dire. Mais avant, est-ce que vous permettez qu'on fasse un peu d'éducation populaire ? Parce qu'il faut bien saisir la globalité des choses. Qu'est pas ça ? J'écoutais Greta l'autre jour sur la 5. Bon, Greta, j'avais un petit a priori. C'est pas mal ce qu'elle disait, la Greta. 28 000 milliards de tonnes de glace sont fondues depuis quelques années. 28 000 milliards de tonnes de glace qui fondent dans l'espace de même pas une année. Alors qu'un flocon, c'est 400 ans. Le niveau des mers sera plus d'un mètre avant la fin du siècle. Adieu New York, adieu Shanghai, adieu la Charente, adieu la Hollande. Enfin, il restera un tiers de la Hollande. Toutes les côtes du monde sont exposées. Et voilà. Le pétrole de l'Alberta, vous avez eu, peut-être comme moi, cette émission, les gens se battent pour leur emploi, 170 000 emplois, à faire quoi ? À récupérer des schistes pleins de pétrole, à les chauffer pour en extraire du pétrole et évacuer toutes les saloperies que ça a. Et ça part dans les lacs, ça part dans les fleuves. C'est des réservoirs immenses qui cèdent quand il y a trop de pluie. La Californie en flamme et des centaines de milliards, 250 000 évacués, paradis rayé de la carte au Canada. Oui, les amis, ben, il y a cette ultime alarme du GIEC, hein, vous savez, ces 2500 chercheurs payés par l'ONU, hein, donc sans conflit d'intérêts, ils ne parlent pas au nom des pétroliers, et qui parlent qu'il y a un réchauffement dû à l'économie libérale, mais qu'il s'accélère et s'intensifie. Et ils tirent une sonnette d'alarme, c'est bien, on est bien sur un chemin sans retour si on ne sort pas complètement de l'énergie fossile. En clair, si on ne sort pas, ils ne le disent pas, hein. C'est pas dans leur rôle, si on ne sort pas du capitalisme. C'est ou catastrophe ou capitalexit. La possibilité de ne pas aller au-delà de 2 degrés existe peut-être encore. Au-delà, ce sera l'enfer. L'enfer. Et à coup d'événements extrêmes et gravissimes, vous les avez vus, hein, ce camion en Bolivie, sous les pluies diluviennes, ces montagnes qui, d'un seul coup, rejoignent la vallée et ensevelissent des villages entiers. Voilà. Et tout ça est en boucle. Voyons, hein, l'ensemble, c'est que tout ça, c'est en boucle. Hein, parce que, par exemple, le réchauffement amène des coléoptères qui attaquent les arbres. Donc, ça fait plus de bois mort. Plus de bois mort et pas d'orage en automne. Feu dévorant. Feu dévorant parce qu'on a cultivé des espèces aussi qui sont, rentables. Et pas assez d'avions pour éteindre. Ça craint un max. Et c'est pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, les amis, c'est étonnant, mais regardez ce matin, là, j'écoutais France Info, vous aussi, hein, paquebot de tourisme vient d'être, le plus grand paquebot de tourisme vient d'être lancé des chantiers de Saint-Nazaire, hein. Bon, eh bien, 6000 passagers. Alors, si vous voulez faire une croisière pas chère, il faut prendre ce paquebot de tourisme, 6000 passagers. Je pense qu'avec un nombre pareil, ça sera un peu moins cher, mais vous vous rendez compte le pognon qu'ils vont faire, 6000 passagers, je ne sais pas, la croisière, c'est 3000 ou 2000 ou 4000, ça dépend, vous êtes en première, deuxième, ou... Voilà, il faut 1500 à peu près personnes pour l'équipage, les cuisiniers, les nettoyeurs, les... Tout ça génère une quantité de déchets innommables. C'est des moteurs tellement puissants qui consomment 40 tonnes de fuel lourd par heure de navigation. Sauf s'ils sont en vitesse tranquille. Mais 40 tonnes à l'heure. Alors il paraît que maintenant on met des bateaux au gaz. Je ne sais pas si celui-là est au gaz. Alors c'est déjà un peu moins grave. Le gaz, ça fait moins de particules fines et ça ne fait pas de SO2. Ce gaz nitreux qui devient acide nitrique quasiment quand il pleut. Et qui ravage les écosystèmes océaniques et les forêts. Voilà, ben il est sorti, hein, c'est pas bien ça. Alors, on continue. Ah oui, les endives, les amis. Eh bien, les endives, ben oui, qui l'eût cru, chaque ménage français avale plus de 5 kilos d'endives par an. Moi, j'adore. Voilà, ben ça fait 528 000 tonnes qui est en France. Non, en France, en Cocorico, on est les champions mondiaux de l'olive, de l'endive. Et voilà. Et alors, pourquoi on est si productif? Attention les amis, suivez bien. Ben parce qu'on continue une technique très répandue qui améliore les rendements, mais comment? Ben on a croisé l'endive avec quoi? Ben les 9/10 des endives qu'on trouve sont issus d'une fusion cellulaire avec du tournesol. Voilà, un partenaire qui dans la nature ne mélange pas ses gènes avec l'endive. Et on l'a forcé à mélanger ses gènes avec l'endive pour rendre l'endive plus productive, parce que le tournesol est résistant. Bon. Et ça, c'est pas déclaré aux autorités. Bravo les producteurs. Et c'est pas... Il n'y a pas de loi qui interdise. Et du coup, depuis des années, qu'est-ce qu'on bouffe? On bouffe une espèce d'endive transgénique. Voilà. Et il n'y a pas que l'endive transgénique. Ça continue. Hein. 8 légumes sur 10 sont des transgéniques. On a pris les graines, on les a balancées dans l'acide ou dans la radioactivité. Et puis, celles qui ont survécu, le noyau génomique, le génome, tellement stressé, a accouché de tomates géantes. Et on fait des tomates géantes. Mutagène. Puisque les OGM sont interdits. L'OGM, vous prenez une pipette, vous prenez un gène du poisson, vous le mettez dans les fraises pour pas que les fraises gênent l'hiver, dans les serres. S'il y a un coup de gros gel, la fraise ne gèlera pas, parce que le poisson ne gèle pas dans les eaux froides, n'est-ce pas? Voilà, alors il y a déjà du poisson dans les fraises, mais là on a fait mieux. On n'a pas fait de l'OGM, introduction dans l'organisme d'une modification génétique. Là, on fait du transgénèse. Et personne ne sait, il n'y a pas de réglementation européenne. Tintin, voilà, bon. Et vous mangez, voilà. Et Guy Kastler, qui siège dans la comité technique permanent de la sélection, s'insurge au nom de la Confédération paysanne. Voilà. Et la répression des fraudes, eh ben, elle regarde ailleurs. Parce que quand on est fonctionnaire, il faut faire parfois attention à ce qu'on dit. Vous voyez, moi, j'étais fonctionnaire, j'étais même formateur de fonctionnaire. Eh bien, quand j'ai décidé, dans les années 80, de ne pas noter pour ne pas fabriquer des crétins diplômés à la chaîne qui disent oui, monsieur, parce qu'on veut avoir une bonne note, mais oui à l'esprit critique, eh bien, j'ai eu une baisse de salaire. Ah, ça dérange. Voilà, donc on continue alors. Et puis le pinard, ben écoutez, on continue. Je reviens, mais le pinard, ben écoutez, le pinard, il y a un paquet d'additifs. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une cinquantaine d'additifs dans le vin. Alors, concernant le vin, ben voilà, comment ne pas être méfiant parce qu'on dit, les gens, ils se méfient de tout, puis finalement, ils croient plus les fake news que les autorités, mais les autorités nous cachent que l'endive va être transgénique, les autorités nous cachent que dans le vin, il y a 8 substances par bouteille, par 100 bouteilles analysées, dont 11 CMR qui sont cancérigènes, mutagènes et toxiques. Vous entendez bien ? Dans toute bouteille de pinard, sur 100 bouteilles de pinard, vous avez 8 qui sont avec des substances toxiques, 11 qui sont avec des CMR cancérogènes. Buvez du pinard, vous êtes sûr d'avoir comme moi un cancer de la prostate. Voilà, la vigne, c'est 15 traitements par an. Voilà. Donc, ce sont des vins, attendez, ce n'est pas des vins ordinaires dont je parle, c'est les vins HUV, haute valeur environnementale. Quand vous voyez ça sur une bouteille, vous dites, oh ben, c'est presque aussi bien que le bio, allez, je prends ça. Ben ouais, voilà, vous avez 11 CMR cancérigènes sur 100 bouteilles. Et pour le bio, ben, c'est encore pire, parce que la loi, elle ne dit pas, la loi n'oblige pas à dire les additifs. Alors, vous avez du vin bio, ben, il n'y a pas de vin bio. Le vin bio, c'est du raisin bio. Après, vous avez du sulfite. Et ça s'appelle vin bio. Mais vous pouvez avoir 37 additifs sur un litre de vin bio. Il n'y a qu'une chose qui est bonne, c'est le vin nature. Et encore, dans les vins nature, faites gaffe qu'ils n'aient pas mis quelques additifs. Vin nature, c'est-à-dire vin cru, où il n'y a sans aucun sulfite. D'ailleurs, ça doit être marqué sur la bouteille, sans addition de sulfite. Voilà, les endives, le pinard, les paquebots, tout continue comme avant. Et puis, bien sûr, nos milliardaires qui tiennent les médias et qui n'arrêtent pas de nous dire que il faut se vacciner, il faut faire des ronds, chaque vaccin, hein, c'est entre 30 et 70 euros. Voilà, Moderna, le PDG, il est passé de 550 millions à 5 milliards de fortune personnelle. Merci, monsieur le PDG de Moderna, vous avez su fourguer votre truc, et maintenant, nous, on va payer une sécu en pleine catastrophe, et vous, vous faites du pognon, et on verra tout à l'heure que ben, c'est pas sans conséquence. Hein. Voilà. Alors, on atteint peut-être un point de non-retour avec ce réchauffement climatique et la continuation de l'as business as usual, ils disent dans les pays anglo-saxons. On continue le business comme à l'ordinaire, voilà. Eh bien, j'ai peur que nous entamions un voyage sans retour, les amis. C'est-à-dire un voyage où le paquebot va couler. Alors vous me direz, ben oui, mais je vous l'ai expliqué. Le paquebot coule, mais les plus riches ont déjà quitté. Ils disent à l'orchestre de continuer de jouer pour amuser la galerie. C'est les médias hein, qui nous disent, oh, c'est pas si grave, ou ceci, ou cela. Mais ça fait 40 ans qu'ils nous disent que c'est pas si grave. Je rappelle que le rapport Midov disait 3 milliards de morts hein, en 1970. Nous entamons peut-être un voyage sans retour. Et pourquoi ? Ben alors, on va faire un petit détour quand même par l'éducation populaire, c'est-à-dire la théorie des systèmes complexes. Comment dire ? Je voudrais... Alors, ne nous fâchons pas, mais l'Empire romain est devenu complexe. Il y avait beaucoup de villes avec des chauffages au sol, avec des bains-douches tièdes. Il y avait des routes partout dans la Gaule, dans l'Italie, dans l'Allemagne. Il fallait lutter contre les invasions. Il fallait une armée, il fallait qu'elle soit bien équipée. Il fallait qu'ils aient tous des bons casques, des bons trucs pour se garer des épées, pour ne pas se faire fendre en deux. Il y a un moment donné, il a fallu beaucoup, beaucoup produire de jarres avec du pinard pour que les gens ils aient ce qu'il faut pour mener la bataille. C'est devenu un truc très complexe. Tellement il était étendu sur le pourtour de la Méditerranée et sur la moitié ouest de l'Europe que le système de plus en plus complexe de l'Empire romain il s'est effondré comme une crêpe en 2-3 siècles. Ça a été cuit, cuit de chez cuit. Et on a eu quoi ? On a eu le Moyen-Âge. Il n'y a plus les routes, il n'y a plus les villes à chauffer, il n'y a plus les amphithéâtres, il n'y a plus... Voilà. C'est que, voilà, un système complexe, ça consomme de l'énergie. Plus il est complexe, plus il consomme l'énergie. Est-ce qu'on a réfléchi un petit peu à ce que nous consommons en tant qu'énergie ? Un litre de pétrole, c'est 15 jours de travail manuel. Vous entendez bien, un seul litre de pétrole. On en bouffe des max, mais on ne s'en rend pas compte. L'électricité nous arrive, mais derrière l'électricité, c'est 60% de charbon qui brûle pour faire des chaudières à vapeur et ensuite des alternateurs qui tournent avec la vapeur et ensuite des turbines qui tournent avec la vapeur. Ensuite, des alternateurs qui fabriquent le jus, enfin le jus, les électrons. Hein, les électrons du courant électronique qu'on appelle courant électrique, qui n'est pas une énergie, hein, qui est juste un vecteur d'énergie. On ne se rend pas compte parce que, voilà, y a un surplus d'énergie, c'était pas trop cher, voilà. Mais plus le système devient complexe, plus il dissipe de l'énergie, plus il risque de s'effondrer. La France, par exemple, elle importe 60 milliards de produits. Et donc la loi des rendements décroissants dit que nous allons nous effondrer, que ce soit en France ou ailleurs, parce que le système est devenu tellement complexe. Vous vous rendez compte, mais on a Internet partout, ça bouffe déjà 10% de l'électricité mondiale. Enfin, certains disent 7%, d'autres 10%, c'est 20% à Paris. On va avoir la 5G qui arrive de partout, on va avoir les voitures, mais de plus en plus, ça se complexifie, des applications, des portables, des ordinateurs, machin. Tout se numérise, tout ça, ça consomme une quantité d'énergie qui, à un moment donné, va faire défaut. Et voilà ce qui va arriver. Déjà, avec le changement climatique et la perte de la biodiversité, bah, vous voyez, les pâtes augmentent de 10 à 20 centimes parce que la semoule de blé dur du Canada, bah, il n'y a pas la production. Voilà. Puis on a tellement spécialisé la planète qu'on va être pris au piège. Un jour, on dira, bah, tiens, on ne peut plus avoir d'endives. Et puis un autre jour, on dira, bah, tiens, là, en ce moment, là, ça ne le fait plus. Il y a des usines qui s'arrêtent parce qu'il n'y a plus de composants électroniques. On a fait de la planète un espèce de casino où chacun s'est réparti les rôles et on transporte tout ça avec des bateaux. Il y a quand même 15 000 porte-containers géants qui font de la fumée et qui font un désastre climatique. Et on emmerde le petit chartreusois avec sa petite auto R5, soi-disant pourrie, qui, lui, en fait, il pollue très très peu, parce que le capitalisme, il renvoie toujours aux individus la faute. C'est pour cacher sa grosse faute systémique. Donc, pensée systémique est fondamentale. Donc, voilà, on va traiter la croissance par la croissance. Alors, moi, il y a des programmes à gauche qui m'énervent, parce que, voilà, on dit qu'il faut beaucoup de croissance pour traiter les saloperies de la croissance, par exemple pour reconvertir les bagnoles en bagnoles électriques. Mais là, je vous ferai une émission sur la bagnole électrique, là vous allez tomber sur les fesses, c'est encore pire que la voiture, les petites voitures thermiques, mais bon, on en reparle avec l'éolien géant et puis surtout avec l'hydrogène. Là, il y a une émission que j'ai préparée, mais j'en ai un bon paquet d'avance, pourvu que Dieu me prête vie et pourvu que vous me prêtiez votre oreille. Voilà. On traite la croissance par la croissance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 18 000 éoliennes géantes, voilà. Mais on est toujours sur la fin de la planète en 2100, parce que 81% de tous les gaz à effet de serre ont été produits par une centaine de multinationales, notamment le ciment, à Lafarge, notre multinationale dont était si fière au CAC 40. Elle est parmi les 40 plus grandes multinationales françaises. Désolé, mais c'est 7% des gaz à effet, est en 7e position, c'est pas 7%, est en 7e position mondiale pour avoir fait du gaz. C'est normal, des millions de tonnes de pétrole pour chauffer du calcaire, pour en extraire du ciment, ça bouffe une énergie folle. Voilà, alors qu'on peut très bien faire des maisons en bois, en paille, en terre, avec 7 étages, comme à Saint-Dié dans les Vosges, mais on continue avec le béton, parce que ça fait du pognon. Béton, goudron. Pognon, comme je dis souvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je vous le disais, soit on se sauve avec sa bite, son couteau dans les bois, soit on fait face tous ensemble, et c'est le moment ou jamais de se dire que, voilà, on a en France quelques centaines de communes, à commencer par celle que j'aime bien, hein, Mouans-Sartou, vous tapez Mouans-Sartou, vous tapez un truc qui s'appelle 1 plus bio, et il vous explique comment Mouans-Sartou, les maires, a pris des arrêtés municipaux pour convertir toutes les terres qui devaient être en constructibles en terres agricoles. Il a, avec son conseil municipal et les habitants, parce qu'il avait fait depuis 40 ans des débats avec les principaux leaders, Vandana Shiva, tout ça, il a fait venir tous les grands leaders de l'écologie sociale et de l'écologie tout court chez lui pour instruire et conscientiser sa population. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, je crois, c'est des cafés, des bars, des choses comme ça. Tiens, en parenthèse, il y a tous les mois à la ferme de la Berthe, en Chartreuse, là, à Saint-Franc, maintenant un petit débat le vendredi soir. Casse-croûte, ciné, débat. Nous avons fourni le film du premier, là, c'était début juillet, sur Picoy of Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé à Cuba quand ils n'ont plus de pétrole? C'est super intéressant, puisqu'ils ont eu zéro mort. Par contre, en Corée du Nord, ils ont eu 1 million de morts de famine. Voilà, et c'était ça qui était instructif, c'est de voir ce film. Eh bien, il va y en avoir un prochain sur la transition énergétique, et donc on parlera de bagnoles électriques, on parlera d'hydrogène, on parlera d'éolien géant, et on se dira, est-ce que ça va nous permettre d'éviter le désastre et le point de non-retour? Voilà, c'était en passant.
Just another roadside. They said I can deny. They said already signed. They said it was implied. They said that I was tied. They walked me till I'm worn. It doesn't ring the Lord. I walked on the full tide, always covered in grime. I've never had a downtime. They still bought me outside. They said we were allies. I walked for a long time. I never saw the upside. They'll fire me and then goodbye.
Donc, est-ce que, comme je l'ai dit à Digne-les-Bains, qu'est-ce qu'on attend à Saint-Laurent, Saint-Pierre, etc. Et vous voyez, j'ai fait plusieurs émissions sur la récupération de terres agricoles par le groupement foncier agricole, par certaines communes comme Saint-Pierre-d'Entremont, qui essayent d'arrêter toute construction et de densifier, mais surtout d'essayer de réinstaller des paysans en périphérie. Ben, il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Les amis, il faut qu'on se mobilise par un référendum d'initiative communale, qu'on demande à la conseil municipaux de voter la récupération du maximum de terres, leur reconversion, par exemple, comme à Lons-le-Saunier, qui est pourtant pas à gauche, et Lons-le-Saunier, ils ont vu que le blé pourrissait les nappes phréatiques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont, sur une profondeur de 8 km, acheté les terres aux paysans. Ou mieux, ils ont donné une prime de 380 euros à l'hectare pour que les gars ils passent en bio. Vous faites du maïs, c'est plein d'atrazine, de Roundup, de saleté. Et nous, on ne peut plus traiter l'eau. Eh bien, ils ont été malins. Ils ont fait comme à Munich. Munich l'a fait depuis 50 ans. Hein, ils ont, Munich a interdit, dans une profondeur de 30 km, tout truc qui était pas bio. Là, ils étaient bons à Munich. Hein, et ils économisent 2 milliards par an. Ils traitent plus l'eau. Ben oui, parce que dans la moindre forêt, toute personne, il y a eu la chasse aux bidons d'huile qu'on balance. Vous voyez, quand on fait avec sa tronçonneuse, on balance le bidon d'huile et tout ça. Ils ont fait la chasse. Et du coup, et puis ils ont fait des forêts avec des feuillus, etc., qui filtrent l'eau et tout ça, hein, qui sont des décontaminants. Les forêts, c'est des grandes décontaminantes. Et finalement, au total, eh ben, 2 milliards d'économisés, l'eau n'est pas traitée à Munich. Et pourtant, il y a 1,5 million d'habitants, ou 2 millions, je ne sais plus. À Saint-Laurent-se-Saunier, où il y a 35 000 habitants, ils ont donné une prime aux agriculteurs pour se convertir en bio. Et du coup, ils ne savaient plus qu'il fallait faire du blé bio. Ben, ils ont fait la filière blé bio, pain bio, cantine bio, avec du pain bio. Et puis c'est parti comme ça, puis maintenant il y a des maraîchers, et puis maintenant la cantine bio de cette ville de 37 000 habitants, c'est 85% bio. Moi, en Sartoux, c'est 10 000 habitants, c'est 100% bio depuis 11 ans. Donc avec un peu de viande, y compris dans la semaine, hein, pour y aller mollo. Bon, ben pourquoi c'est ça, ça ferait pas partout. J'étais à Digne, là, dans la manif, et il y a 800 personnes. J'ai pris la parole en disant, mais qu'est-ce qu'on attend à Digne pour renforcer les défenses immunitaires des gens? Une des solutions, c'est que tout le monde bouffe bio. Les pauvres ne le peuvent pas. Il y a une telle pauvreté en France. 10 millions de personnes à moins de 1000 euros par personne, enfin quand on est deux, c'est moins de, c'est 500 la deuxième, hein. Donc c'est 1500 à deux, c'est 1000 tout seul. Voyez, dans les quartiers nord de Marseille, vous n'avez pas eu cette enquête, mais c'est épouvantable, des gens mangent une fois tous les trois jours, tous les deux jours. Des dizaines de milliers de gamins, ils n'ont jamais vu la mer, ils sont à vol d'oiseau à 8 km de la mer ou à 4 km, ils n'ont jamais vu la mer parce qu'un ticket de bus, ils ne peuvent pas se le payer. Donc la France, les banlieues sont en train de crever, il est vital maintenant, et les élus font pas du tout le job, sauf quelques-uns bien sûr, c'est de c'est quelques centaines que je dis, hein, une Garcha, mais enfin je ne veux pas tous les citer, dans le Gard, à la limite de l'Ardèche, là, comment il s'appelle, notre copain maire, qui a su également faire une récupération de 120 hectares avec terre de liens d'une grande, grande exploitation pour faire la cantine bio. Il est en train de rattraper Moinsartou. Et je ne me souviens plus du nom. C'est dans le film Nos enfants nous accuseront, où on voit ce village du Gard à la limite de l'Ardèche passer progressivement en cantine bio. Voilà. Et donc, c'est de plus en plus vital de faire des ceintures vertes. Lyon devrait, au lieu de repeindre des immeubles en blanc, enfin, j'ai pas dit au lieu, mais planter 3-4 arbres, hein, ça, c'est l'écologie environnementale, ripollinage, hein, ou arrêter avec les sapins de Noël en plastique, ou bref, tout ça et quelques passages à vélo, c'est très sympa. Mais écoutez, les copains, on n'en est plus là. Il faut absolument et passer au vélo partout et passer à la ceinture verte partout, parce que vous voyez, ça commence par la semoule des blés durs du Canada, ça commence par les fruits hors de prix de cet été, puisque 80% de nos fruits à noyaux ont été grillés par un printemps extrêmement froid avec les gels. Tout se perturbe, hein, le changement climatique, c'est un réchauffement global, mais ça peut très bien être plus froid à un endroit, beaucoup plus de fruits et depuis un endroit, beaucoup plus de sécheresse. Il faut se préparer et pas attendre de devoir crever la gueule ouverte et de voir brûler notre chartreuse et de voir qu'il n'y a pas assez de canadaires et d'être confiné parce qu'on n'a plus que cette solution quand on n'a que 5000 lits de respirateurs. Équipé de respirateurs. Il y a un moment donné, il va falloir mettre le paquet. Et comment avoir confiance, puisque on nous a tellement menti. Alors, on, c'est pas on, c'est qui est propriétaire d'Europe numéro 1 ? Ben, c'est le propriétaire de Bolloré, qui est aussi propriétaire du monde. C'est quoi ces gens-là ? C'est des milliardaires. Et est-ce qu'ils nous ont caché la vérité sur l'amiante ? 3500 meurent de l'amiante étouffés chaque année en France. On nous a dit, mais non, l'amiante, c'est très bien. On nous a caché le tabac cancérigène. On nous a caché le climat. C'est des véritables criminels. Parce que le climat, on sait très bien depuis 1970, date du rapport Midhoff, qu'on allait le payer par 3 milliards de morts. si on continuait. Mais on a continué, puis on nous a dit, ben non, et nous en France, on a un Claude Arleg qui a eu des chèques de la part de ces gens-là pour dire, mais non, le changement climatique, mais non, c'est périodique, c'est géologique, ça n'a rien à voir avec l'homme. Oui, non, ça n'a pas à voir avec l'homme. Tout le monde n'a pas détruit le climat. Il y a 4 milliards de personnes qui vivent chichement, qui n'ont rien détruit du tout. On détruit le climat les plus riches. Un riche, vous le savez très bien, ça consomme 80 fois plus de CO2, ça produit 80 fois plus de CO2 qu'un pauvre. Hein. Les 1% les plus riches, ils produisent 180 fois plus de CO2 quand vous êtes sur le yacht d'Abramovitch ou dans celui de Bernard Arnault. Tiens, Bernard Arnault, 100 mètres, hein, le sien, Abramovitch, 300 mètres, 330 millions le sien, et Arnault, lui, son yacht, il ne vaut que 100 millions, c'est 1 million le mètre. Et oui, ben Arnault, excusez-moi, mais... Un yacht comme ça, ça consomme combien à l'heure de gasoil, hein? Et puis, combien de personnel à bord? Et puis, la fabrication, ces bestioles avec des douches, des salles de bain, des réservoirs à eau, un hélicoptère sur le pont. Ça coûte la peau du cul, tout ça, pour le bonheur d'un seul et de sa famille. Donc, ne faites pas dire que Bernard Arnault, il n'a pas plus d'empreinte et que donc on est bien dans l'anthropocène. Tout homme est un assassin, un tueur de planète. Il y a toute une anthropologie qui accuse les hommes. Moi, j'accuse un système. Ce système a tout fait, d'une part, pour produire avec le gasoil qui lui rapportait le plus, et d'autre part, nous cacher la vérité. Voilà pourquoi les gens sont méfiants. Hein. On sait très bien qu'il y a des vaccinations qui ont été désastreuses, et donc on sait très bien que ça a servi les laboratoires, et donc on est devenu méfiant. On sait très bien que l'agroalimentaire nous vend des pizzas dans lesquelles il y a une sauce tomate à 95% des pizzas qui vient de Chine, qui est sur des terrains traités Roundup à mort, ramassés par des machines, broyés, et ensuite, bien sûr, stérilisés, envoyés dans des containers, porte-containers géants, et dans des containers d'une tonne chacun, mis dans un container de camion de 40 tonnes, puis ensuite distribués à Turri di Bari en Italie, où la mafia rajoute un peu de mélanine, un peu de flotte, enfin, éventuellement un peu de teinture rouge pour allonger la sauce, et tout ça arrive dans nos pizzas. On sait très bien que c'est du fromage artificiel. Et bilan des courses, l'obésité en France est une épidémie caractérisée comme telle, ouais, doublement en 22 ans. Et puis les cancers, personne ne peut dire les chiffres, mais beaucoup de données vont vers les 300-400 000 cancers chaque année. Voilà. Et cancer, c'est quoi? C'est l'effondrement de l'environnement. C'est ce qu'on mange, c'est la fumée qu'on respire, qui produit d'ailleurs des caillots de suie. Alors les copains, pourquoi ne pas prendre pouvoir localement et au moins demander qu'il y ait un référendum d'initiative communale pour dire qu'est-ce qu'on mangera s'il y a une catastrophe dans le coin, soit un incendie géant, soit des inondations géantes, soit des sécheresses géantes, mais soit des approvisionnements qui ne fonctionnent plus. Guerre avec l'Iran, vous avez 30% du pétrole mondial qui n'arrive plus. Vous avez une augmentation des prix de 50%. C'est 1,65, hein, le de 98. Si c'est 50% d'un euro 60, vous allez le payer 2,50 €. Là, vous ne pouvez plus faire tourner des camions à des prix pareils. Ou alors, le kilo de tomate qui vient d'Espagne, on en produit beaucoup en France, hein, mais qui vient d'Espagne, va doubler. Donc, on ne pourra plus nourrir des populations qui n'ont plus de ronds. Déjà, pour les pâtes, ça va être un gros problème. Voilà, les pénuries arrivent. Il est temps de se mobiliser dans un pays civilisé, avec des adultes responsables, vaccinés ou pas, avec des enfants qu'on conscientise dans les écoles, pour se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange à Saint-Laurent? Allez-y, vous prenez Critère. C'est ça, Critère ou Cratère? Cratère. C-R-A-T-E, c'est un logiciel. Tapez Cratère sur un moteur de recherche. Il va vous donner tout de suite le logiciel gratos. Hein, c'est une équipe de gens qui ont fait ça. Vous mettez Saint-Laurent dans le cratère et on vous dit, à Saint-Laurent, il n'y a rien à manger. Vous pouvez manger l'écorce des arbres, vous pouvez manger les pins, vous pouvez manger de l'herbe, un peu de béton, voilà. Mais il y a quoi autour? Rien. il est temps de remettre des chèvres, il est temps de remettre des poireaux, des patates, des tomates, des topinambours, des courges et des fruits rouges. Parce que la chartreuse, c'est très bon pour le fruit rouge. Et c'est très bon pour la santé. Et si vous faites ça, comme à Moinsertou, comme à Ingersheim, comme à Lons-le-Saunier, Munich, etc., à Rome, 22 000 hectares ils ont mis pour la cantine bio, ben c'est pas assez, mais ils ont fait ce qu'on n'en fait même pas à Paris. À Paris, 1840, 800 000 habitants mangeaient des épinards à Noël, des radis en novembre. Comment ? Eh ben le fumier des chevaux faisait des couches chaudes que je mets dans ma petite serre, hein. Si vous voulez venir voir, d'ailleurs, il y a plein de raisins à manger, hein, sur la bordure de ma maison, hein. Je l'aurai bientôt payé, que personne ne se fasse de soucis, encore 4-5 ans, et je suis le seul propre, oh, puis ça baraque à mon âge. Mais vous pouvez venir, il y a 150 grappes de clinton amélioré qui pendoie, et c'est meilleur que et c'est bien meilleur que le raisin muscat. Bref. Il est vital aujourd'hui de mettre du raisin partout, des fruits rouges, pour développer la résilience. Alors, j'aime pas ce terme, mais développer l'adaptation de nos territoires à ce qui va nous arriver. L'autonomie alimentaire, tapez critères et vous verrez tout de suite. D'ailleurs, messieurs les maires, si vous m'écoutez, mais vous le savez sans doute, dans les PPRI, c'est-à-dire les plans concernant les risques naturels, désormais, il y a un alinéa pour d'autres risques. Et notamment le risque alimentaire. Alors, demandez à vos maires qu'est-ce qu'ils ont prévu comme plan concernant les risques alimentaires. Soit, je vous dis, sécheresse, inondation, incendie géant. S'il y a un incendie géant en Chartreuse, qu'est-ce qu'on va bouffer ? Eh bien, ça, vous pouvez le demander à vos élus. Exigez un référendum. Pour qu'il y ait un référendum, il faut qu'il y ait du débat. Et pour qu'il y ait du débat, il faut vraiment qu'on cesse de faire, comme je l'ai montré à Dean, là, avec la Provence. « Ah, mais le pauvre, il a 30 ans, il est malade, il ne s'est pas vacciné, etc. » Oui, mais on tait le nombre énorme de conséquences de la vaccination et surtout, on tait qu'il y a d'autres politiques sanitaires possibles, à savoir développer massivement la consommation biologique, local, notamment de fruits rouges, mais aussi d'épinards, de radis, de poireaux, car un épinard consommé dans la journée garde 100% de sa vitamine C et de ses micro-éléments, micronutritifs, si c'est un épinard cultivé raisonnablement en plein air, un peu de serre, mais pas des serres où on met 12 tonnes d'eau par jour avec des blettes géantes, soi-disant bio, mais où il y a 20 fois ou 30 fois moins de nutriments, parce que c'est dans le bio aussi l'industrie qui prend le dessus. L'industrie, l'agro-industrie, l'agriculture industrielle. Donc faisons dans la périphérie de nos patelins de Chartreuse des zones rachetées par les communes, des terrains, même s'il faut les payer 3-4 fois plus cher aux paysans, parce qu'ils attendaient que ce soit constructible, que ça leur fasse des ronds pour la retraite, nanana. Les premiers destructeurs, ce sont ceux-là. Ils viennent au conseil municipal, d'ailleurs, que pour ça. Allez, pas un, classez-moi mon terrain en constructible. Ben oui, monsieur, on va pas dire le nom. Ben voilà, j'avais un hectare, monsieur avait un hectare. Cet hectare valait 3000 euros. Hein, c'est 3 euros le mètre carré, 10 000, même, non, 0,3 euros le mètre carré de prairie. Voilà, il est constructible, 150 euros, ben voilà, 1,5 million gagné en une décision d'un conseil municipal rendant constructible le terrain. Voilà, mais c'est un copain, donc on construit sur son terrain. Il faut se battre, les amis, pour que la terre vivrière, nourricière, propre, fait par des petits paysans, fait par des régies publiques alimentaires, voilà le fond de la question, comme à Moinsertou, avec une légumerie, des conserveries municipales. Il faut que nous bougions pour qu'il y ait une sécurité sociale alimentaire étendue, c'est-à-dire que les plus pauvres aient une sécurité sociale qui leur permette d'acheter ces produits. Mais si vous produisez à 1 km du centre-ville de Saint-Laurent-du-Pont, eh ben la bouffe bio est beaucoup moins chère que la pesticidée des grandes surfaces d'à côté. Voilà. Et bien ça, c'est à notre portée. Tapez Moinsertou, tapez Crater, tapez PPRI alimentaire et demandez aux élus qu'il y ait un référendum d'initiative communale. Et c'est, je vous donne bien le bonjour, j'ai commencé en pleurant. Je finis tout optimiste parce que vous savez, l'optimisme, ça se conquiert dès qu'on agit. Si on reste à attendre la fin du monde, là, on se tire une balle. Ou alors, Ou alors, on attend que Dieu nous prenne la main pour nous emmener ailleurs, en espérant qu'on s'en sortira autrement que de périr dans les flammes, ou de soif, ou de faim. Merci encore à vous. Réagissez. André Duny, 06 75 80 05 79. Et faisons partout des cafés débats.
C'était la scène cause pour un bien commun et un monde vivable.